Bonjour et bienvenue dans De l'idée au projet, le podcast où on se demande comment monter un projet culturel européen de A à Z, comment l'imaginer, le pitcher, choisir les bonnes personnes pour y collaborer et surtout comment le financer. Aujourd'hui, on explore un nouveau médium, une nouvelle façon de diffuser la culture, j'ai nommé la réalité virtuelle. Que ce soit dans les musées ou sur nos smartphones, les expériences de réalité virtuelle ou de réalité augmentée sont partout depuis une dizaine d'années. Alors, j'ai eu envie d'échanger avec un des acteurs de ce secteur pour qu'il me l'explique en détail et qu'il me parle de son modèle économique. Pour ça, je suis allée voir Alexandre Roux qui a deux casquettes. Il est à la fois directeur de la stratégie du développement de Lucid Realities, une société de production de contenu dédiée aux écritures immersives et interactives, et de Unframed Collection, une société de distribution de ses contenus. C'est donc un double modèle économique dont on va parler dans l'épisode, mais pour le moment, je demande à Alexandre Roux s'il peut m'expliquer ce que c'est exactement une écriture immersive et interactive.
C'est une écriture qui utilise les technologies immersives, donc réalité virtuelle, réalité augmentée, mixed reality, mapping, pour raconter des histoires d'une façon nouvelle, en utilisant ces technologies et le pouvoir de ces technologies pour placer l'utilisateur au cœur d'un récit ou faire vivre des émotions d'une manière totalement différente, créer un impact chez l'utilisateur.
Il y a plein de termes dans cet univers, il y a réalité virtuelle, expérience immersive, etc. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les grandes catégories d'œuvres que vous produisez avec Lucid Realities ?
Nous produisons à 90%, alors je n'ai pas le pourcentage exact, mais en grande majorité des œuvres en réalité virtuelle. Alors même au sein de la catégorie réalité virtuelle, on a des sous-catégories, on a des films 360, on a des expériences 6DoF, comme on dit, donc 6 degrés de liberté stand-alone, c'est-à-dire avec des utilisateurs qui ne bougent pas ou très peu, qui sont assis ou debout, mais qui ne bougent pas librement dans un espace. Et puis on a cette catégorie qu'on appelle free roaming, multi-utilisateur, donc avec une déambulation libre dans des espaces assez grands, de 300, 500, 800 mètres carrés. On a aussi produit par le passé des expériences en réalité augmentée. Donc la différence avec la réalité virtuelle, c'est que on est dans l'environnement naturel, en tout cas, je veux dire l'environnement dans lequel on parle là actuellement, et on va faire apparaître en fait des objets 3D dans cet environnement, à travers une tablette, à travers un téléphone ou un casque qui peut accueillir ou en tout cas lire ces expériences en réalité augmentée. Et la troisième grande catégorie, c'est, j'ai envie de dire, du mapping, c'est de la grande projection, qui peut être de la grande projection dans des salles type atelier des lumières, ça peut être sur des bâtiments.
Donc pour résumer, réalité virtuelle, on a un casque. Réalité augmentée, on a un device, donc un téléphone, une tablette qui nous sert à faire apparaître des objets.
Ou un casque, mais les objets apparaissent dans l'environnement réel.
Et mapping, c'est des grandes lumières projetées dans des grands espaces.
J'aime beaucoup. Et dans ce mapping-là aussi, on peut avoir des mappings interactifs avec des technologies Kinect, par exemple, où vraiment le visiteur va pouvoir interagir en temps réel avec l'image.
Qu'est-ce qui a présidé à la création de Lucid Realities en 2018 ? C'était quoi l'envie ?
Je vais parler au nom de Chloé Jarry, mais Chloé Jarry avait porté un projet en réalité virtuelle qui était le premier projet en réalité virtuelle sur un sujet documentaire en multi-utilisateur qui s'intitulait The Enemy. Et ce projet, en fait, a été une aventure assez incroyable en termes de production parce que c'était un projet qui était sur un sujet très compliqué, parce que c'était sur les conflits. C'était un photographe de guerre qui s'appelait Karim Ben Khalifa qui avait rencontré au MIT l'inventeur du premier casque grand public, Oculus, et qui a eu une révélation à ce moment-là et qui s'est dit, voilà, je veux utiliser cette technologie-là pour raconter une histoire sur les conflits, et il avait choisi trois conflits. En fait, à la suite de cette grande aventure, Chloé a voulu créer une entité propre, donc détachée de Caméra Lucida, qui avait produit ce premier projet et pour créer une marque autour des technologies immersives. Et donc, elle a créé Lucid Realities avec l'envie de développer ces formats-là. Et donc, elle a commencé à produire, par exemple, Claude Monet, l'Obsession des Nymphéas pour le musée de l'Orangerie, qui a ensuite été diffusé dans plus de 20 institutions culturelles internationales. Donc, des formats, on va dire, plus simples à exploiter et en coproduction avec de grandes institutions muséales, parce que le projet The Enemy avait tout de suite fait naître la nécessité de diffuser et de où diffuser ces formats-là. Et Chloé avait tout de suite identifié les lieux de culture type musée comme des lieux vraiment avec des espaces pouvant accueillir ces formats-là. Et voilà, l'impulsion et la stratégie première qu'elle a initiée au sein de Lucid Reality, ça a été de dire, sachant que ces lieux-là sont de potentiels diffuseurs, il faut les impliquer très en amont de nos projets et en tant que coproducteurs. C'est-à-dire garder les droits sur l'œuvre pour ensuite pouvoir la diffuser et garder une indépendance aussi créative vis-à-vis de tous les partenaires avec lesquels nous travaillons.
C'est-à-dire que vous produisez des expériences notamment pour des musées ou des institutions culturelles. Elles participent avec vous à choisir l'édito du projet que vous développez, mais le projet vous appartient à vous.
Exactement. Alors, notre mission en tant que producteur délégué, c'est que nous, ce qu'on aime bien faire, c'est développer des idées avec des auteurs, des autrices, et ensuite aller voir les partenaires potentiels. Ce qui nous permet en fait d'arriver avec déjà un sujet ou un traitement développé. L'objet de la coproduction, c'est bien sûr d'aller chercher des lieux et des partenaires qui peuvent aussi alimenter le projet, des curateurs, des commissaires d'exposition, des personnes qui connaissent parfaitement l'histoire de l'art, qui vont nous permettre d'ouvrir certaines portes aussi qu'on n'aurait pas imaginées. Donc ça, c'est une collaboration, on va dire, éditoriale et artistique sur le projet. On va chercher aussi une caution, parce que c'est une labellisation d'avoir un musée aussi important en tant que coproducteur qui va nous permettre aussi d'aller chercher d'autres partenaires en coproduction, des partenaires privés ou publics qui vont être rassurés en se disant « voilà, il y a déjà, exactement comme dans l'audiovisuel, quand on a un diffuseur, un primo-diffuseur comme France Télévisions ou Arte, tout de suite, ça rassure. » Et on va aussi chercher une première fenêtre d'exploitation. Cette première diffusion, au-delà du fait qu'elle permet une première présentation au public de l'œuvre, elle permet de générer des revenus, elle permet de créer un précédent, elle va nous permettre aussi de créer tous les éléments marketing qui vont nous permettre d'aller démarcher de nouveaux lieux, d'avoir des metrics, des KPI, hein, qui est quand même un enjeu important, tout en gardant une indépendance aussi artistique, parce que nous sommes les producteurs délégués, nous détenons l'IP et nous sommes au service de nos auteurs. Le producteur, il est là pour accompagner les auteurs, accompagner une vision.
Qu'est-ce qui fait un bon sujet pour de la réalité augmentée ou de la réalité virtuelle ?
Un bon sujet, c'est une belle histoire et c'est des artistes qui vont porter un regard sur cette histoire.
C'est pas forcément le sujet en soi, c'est le traitement qui est fait du sujet.
C'est le traitement, ouais, parce que en fait, vous voyez, on a fait une expérience sur Van Gogh. Des expériences sur Van Gogh, il y en a eu des centaines et des dizaines. Il y a même eu un moment aux États-Unis, je crois, qu'il y avait 10 shows en mapping qui tournaient en même temps. Nous, on a fait une expérience sur Van Gogh où en fait, les auteurs sont partis d'une anecdote en fait que le docteur Gachet avait prêté une palette à Van Gogh quand il vivait à Auvers-sur-Oise. Et de cette palette, ils ont construit une histoire. Et ça, c'est ce qu'on aime faire, et c'est comme ça que je présente Lucid Realities. En fait, quand on fait une expérience sur un grand artiste ou une grande artiste comme Monet ou Van Gogh, et qu'on fait une expérience qui fait entre 8 et 15 minutes, on n'a pas vocation à résumer l'histoire de cet artiste, l'œuvre de cet artiste, parce qu'on n'y arrivera jamais. Mais par contre, ce qu'on doit faire, c'est toucher la vision ou une des visions de l'artiste. Et de là, en fait, ce qu'on va chercher, c'est toujours raconter la grande histoire via la petite. On a produit une expérience sur Matisse aussi. Ce qu'on a choisi, ce que les auteurs ont choisi, c'est de raconter l'histoire des décorations murales autour de la danse, qui sont aujourd'hui exposées à la fois à la Fondation Barnes à Philadelphie et au Musée d'Art Moderne de Paris. Pourquoi ? Parce que cette œuvre a été un tournant dans la carrière de Matisse parce que c'est à ce moment-là qu'il a commencé à travailler sur papier découpé. Mais du coup, on n'a pas voulu résumer toute l'œuvre de l'artiste ou toute la période papier découpé. Non, en racontant cette anecdote, on a raconté ce moment où il se dit « Tiens, j'ai envie de tester le papier découpé ».
C'est vous donc qui approchez les institutions pour leur proposer des expériences. Est-ce qu'elles sont ouvertes aujourd'hui, globalement, les institutions culturelles, les grands musées, les grandes fondations, à la réalité virtuelle, ou est-ce qu'il faut encore essayer de les convaincre de l'utilité de cette nouvelle façon de consommer l'art ?
Elles sont de plus en plus ouvertes. Il y a des différences dans les territoires. En Amérique du Nord, c'est un peu plus compliqué. En France, par exemple, beaucoup d'institutions voient en ces médiums-là la possibilité de toucher de nouveaux publics, mais pas que. Les seniors aiment beaucoup la réalité virtuelle. Donc, les musées ont vu que ça pouvait aussi parler à leur public traditionnel. En Asie, il y a aussi la problématique de la circulation des œuvres, parce que les œuvres, les grandes œuvres d'artistes comme Monet, Klimt, etc., voyagent de moins en moins, parce que les coûts d'assurance sont très élevés, parce que les musées se sont engagés sur des impacts carbone limités, etc., qui font que les œuvres, les grandes œuvres, vont de moins en moins circuler dans le monde. Et donc, ces technologies-là ouvrent la possibilité aussi de faire circuler ces œuvres d'une autre manière. Maintenant, il y a toujours des réticences pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'il y a une période où il y a beaucoup de choses qui ont été produites, qui étaient produites de mauvaise qualité. Il y a eu un énorme boom pendant le Covid où beaucoup de studios ont produit des visites virtuelles qui n'ont, pour nous, aucun intérêt. On ne fait jamais de visite virtuelle au sein de Lucid Realities. Voilà, il y a eu aussi une question de... Au début de la technologie n'était pas très stable. Les studios ne produisaient des œuvres qui n'étaient pas non plus stables parce qu'ils n'avaient pas d'expérience vis-à-vis de ce médium-là. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on arrive à une maturité à la fois au sein des... Enfin, pour les artistes qui utilisent ces médiums-là, mais aussi pour nous, studios. On s'est mieux développé, on s'est mieux calibré et adapté nos œuvres à une diffusion. Et ça, c'est aussi notre chance au sein de Lucid Realities et Unframe Collection, c'est d'avoir les deux activités très, très imbriquées. L'activité de distribution, d'avoir des remontées vraiment quotidiennes du terrain de la part de nos musées avec qui nous travaillons, de qu'est-ce qui n'a pas marché. Du lancement de l'expérience quand on met le casque jusqu'à l'intérieur de l'expérience, des interactions que les publics ne comprendraient pas. Et donc, toutes ces informations-là, on va les remonter à notre cellule production qui va aussi adapter les œuvres. Alors, ce n'est pas restreindre la créativité, mais c'est juste rajouter des call to action, par exemple, à certains moments, pour rassurer ou pour y indiquer à l'utilisateur où il doit interagir. Et toutes ces petites métriques, en fait, vont permettre à la fois de faire vivre l'œuvre d'une manière optimale et complète, mais aussi va permettre au musée qui accueille ces œuvres-là d'accueillir plus de public, parce que moins de friction, moins de médiation et moins de problèmes en exploitation. Et ça, c'est hyper important. Maintenant, je tiens à dire quand même que les curateurs, à partir du moment où on leur fait tester des œuvres qui font sens, qui sont bien produites avec des regards d'auteur, y a beaucoup qui changent d'avis. On a eu parmi nos partenaires des partenaires qui étaient très réticents au début et qui ont finalement été ravis d'avoir participé à la production de ces œuvres, d'avoir présenté ces œuvres-là à leur public et qui sont revenus aussi nous voir pour en produire de nouvelles. Donc on arrive petit à petit à faire en sorte que ces nouveaux médiums s'intègrent dans des parcours de visite et surtout ne soit pas considéré comme une œuvre de substitution. Et ça, ce qu'on dit, on n'est jamais là pour remplacer l'œuvre originelle. On est là pour, au contraire, essayer de la valoriser en donnant un nouveau regard, une nouvelle vision sur ses œuvres.
Combien ça coûte de développer un projet immersif comme ça ? C'est quoi la fourchette de budget ?
C'est très varié. Ça varie en fonction de deux grandes métriques, le format. Une expérience qui est déambulatoire, une expérience qui se vit assise, une expérience qui se vit debout, une expérience qui utilise du 360, de l'image réelle, de la motion capture. Voilà, ça c'est une première métrique, le format, et puis la durée, parce que comme pour un film, plus il est long, plus il coûte cher. sur des œuvres, sur la majorité de nos œuvres, on va dire qu'on est entre 200 000 et 500 000 euros de budget. Et puis sur les œuvres multi-utilisateurs, c'est 1 million et plus.
Quel est votre modèle économique aujourd'hui ?
Il y a le modèle de production et il y a le modèle de distribution. Le modèle de production, il est simple, c'est aller chercher des coproducteurs et des financements publics et privés pour produire nos œuvres. Et d'avoir, de garder des frais généraux, une marge pour le studio pour payer les salaires en interne. Donc là, c'est le travail du producteur délégué de soumettre des dossiers de financement au CNC, à Creative Europe, en région, aller chercher des financeurs privés entreprises diverses et variées, coproduction des lieux de diffusion type musée et autres. Et le modèle de distribution, nous, on a un modèle qu'on a développé aussi grâce à l'aide de Creative Europe, qui nous a permis de construire notre plateforme, et qui est un modèle de partage de revenus, de revenue sharing, comme on appelle en anglais. Et le musée va acheter des crédits et on va avoir un coût à la minute proposé. Et les crédits vont se débiter en fonction du nombre de minutes visionnées. Donc ça, c'est un modèle qu'on a mis en place pour deux raisons. La première raison, c'est que ça nous permettait que les lieux achètent des droits de diffusion avant de les diffuser, parce qu'il y avait aussi une notion de, quand on travaille beaucoup à l'international, d'être sûr de que les gens nous payent. Et aussi, l'interface qu'on a créée pour nous permettre de créer ce data flow management, cette remontée de data, en fait, nous a permis aussi de protéger les œuvres. On a développé tout un système de protection des œuvres. Et aussi, le deuxième objectif, c'était vraiment de ne pas sortir des prix du chapeau. C'est-à-dire de dire, en fait, vous allez payer en fonction de l'utilisation.
Donc, par exemple, vous créez l'œuvre sur les nymphéas de Monet. Et puis, quelques années plus tard, vous créez la plateforme sur laquelle cette œuvre sur Monet est disponible. Et moi, musée, néerlandais ou belge, je peux aller prendre cette œuvre sur votre plateforme, en payer les droits de diffusion pendant une période donnée et la diffuser dans mon musée, c'est ça ?
C'est tout à fait ça.
Donc, ça permet d'avoir ce qu'on appelle de la longue traîne aussi sur l'exploitation de l'œuvre.
Les revenus de distribution vont permettre aux producteurs de soit financer le gap de financement qu'ils ont encore, soit générer des revenus qui vont pouvoir réinvestir dans de nouveaux projets. Et c'est ce cercle vertueux qu'on veut tous créer au sein de l'industrie XR. Mais aujourd'hui, il est vrai que c'est le nerf de la guerre. Dans la XR, c'est vraiment faire en sorte que ces œuvres-là soient vues par le public, mais aussi génèrent des revenus en phase d'exploitation et distribution.
Pour créer Unframe Collection, vous vous êtes tourné vers Creative Europe et notamment vers l'appel à projet du volet transsectoriel Innovation Lab, qui soutient la coopération, l'innovation et les solutions communes entre plusieurs secteurs de la culture et de la création, plutôt que de se limiter à un seul secteur en particulier. Avec qui d'autre vous avez coopéré pour créer cette plateforme ?
Plusieurs choses. Donc déjà, quand on a soumis un dossier à l'Innovation Lab, on avait déjà créé une première version de la plateforme, mais on voulait aller plus loin. Développer des nouvelles fonctionnalités de la plateforme et aussi développer un réseau autour de cette plateforme de distribution. Pour développer ces réseaux et ce réseau, on allait voir plusieurs partenaires. On allait voir notamment Correspondance Digitale, qui est une agence de conseil française, qui a un important réseau de ICC, donc de lieux de culture type musée, mais aussi de studios et producteurs et autres, qui aussi développe tout un volet événementiel, et notamment les Numix Labs, en coopération avec le Canada. Et on allait voir aussi d'autres partenaires. On allait voir un partenaire qui est basé en Allemagne et en Pays-Bas, Iconospace, qui est un studio qui crée des galeries virtuelles pour des musées. Et puis, on est allé voir une école en Tunisie, parce qu'à l'époque du dépôt Innovation Lab, la Tunisie était un pays éligible. C'est une école post-bac pour des graphistes 3D, développeurs et autres, pour donc nous rejoindre dans le projet. Et donc, ce consortium avait plusieurs objectifs. Un objectif déjà techno, en développant, nous, au sein d'Unframe Collection, des nouvelles fonctionnalités pour la plateforme, un objectif réseau avec plutôt correspondance digitale qui était de développer des événements, du contenu éditorial pour fédérer une communauté autour de nos deux sociétés, et puis une dimension, on va dire, lab exploratoire avec une coopération Iconospace Netinfo sur tout un volet métaverse. Et on avait choisi aussi d'ajouter une dimension politique à cela avec l'ancrage nord-africain de Netinfo sur tout le volet restitution des œuvres au musée africain et enjeux qu'il pouvait y avoir avec le métaverse sur ce sujet de la restitution. Donc ça a été une aventure de plus de 2 ans qu'on a menée à bien et qui nous a réellement permis de développer fortement notre ancrage au sein du secteur et de générer beaucoup plus de pénétrer beaucoup plus le marché.
Qu'est-ce que cette aide européenne vous a permis de faire que des aides, par exemple, nationales ou régionales ne vous auraient pas permis ?
Il s'avère que l'aide européenne est quand même beaucoup plus importante que les aides régionales qu'on aurait pu solliciter. On est sur un budget de plus de 609 000 euros répartis entre 4 partenaires. Donc c'est vrai que c'est une impulsion assez forte qu'on aurait peu imaginé avoir avec différents guichets. Et puis c'est pareil que pour les partenaires et les coproducteurs, c'est une labellisation d'avoir le logo Creative Europe. Pour nous, on le valorise d'une manière très importante dans nos éléments, dans nos supports de communication, sur nos sites. La labellisation de l'Europe, ça compte. Quand on est aussi très lié à des institutions publiques, ça rassure que notre projet soit été reconnu et sélectionné, parce que c'est quand même des critères de sélection, une sélection qui est quand même assez importante. Et c'est vrai que cet accompagnement qu'on peut avoir même avec les personnes qui travaillent chez Creative Europe, je tiens à saluer une nouvelle fois l'implication et l'accompagnement Vincent Socodato, qui est notre référent et qui nous, qu'au-delà du fait qu'il nous aide sur nos dossiers, c'est quelqu'un qui a une vraie vision stratégique et qui nous permet aussi de créer cette introspection nécessaire. Parce que demander une aide sans avoir de vision stratégique, ça ne sert à rien. Mais à partir du moment où cette aide-là va s'inscrire dans la stratégie de la société, que cette stratégie va être mûrie, construite, et c'est tout l'enjeu de ces dossiers-là, qui sont quand même des dossiers hyper exigeants, très chronophages, time-consuming. Mais nous, on transforme ces moments en réelles phases d'introspection au sein de l'équipe. Et c'est pour ça que, nous, on a une façon de travailler nos dossiers européens qui est hyper collective. Tout le monde participe. Et une fois les idées posées, réfléchies, prioriser, etc., on passe à la rédaction. Ces dossiers médias et cette recherche de financement, elle doit découler d'une réflexion mûrie au sein de l'équipe et d'une vision très stratégique. Et ça, c'est aussi par toutes ces communications qu'on a pu avoir avec Vincent, tout cet accompagnement de Creative Europe, toutes ces contraintes au fait qui nous... tous ces éléments qui nous demandent de justifier, de communiquer... je parle souvent, par exemple, il y a un volet sur l'environnement, des questions sur quel est votre impact carbone. Au début, c'est vrai qu'on avait peu de réflexion là-dessus. Mais au fur et à mesure des dossiers européens, on doit argumenter. On doit dire qu'est-ce qu'on va faire. On a mis en place des process. Et ces process-là, on les aurait peut-être pas aussi vite mis en place si on ne les avait pas réfléchis dans le cadre de ces projets-là. Ouais, ce que je veux dire, c'est qu'au-delà du financement, c'est toute cette réflexion que nous permet d'avoir Creative Europe. Et ça, c'est formidable.
Quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui veut répondre à un appel à projet Innovation Lab du volet transsectoriel de Creative Europe ?
Je conseillerais à ce partenaire de bien connaître ses partenaires, ses autres partenaires, s'ils veulent le déposer en tant que consortium. Parce que c'est quand même... la communication, quand on a des partenaires, et encore plus des partenaires qui sont basés dans d'autres pays, c'est quand même un enjeu assez important et il faut bien s'entendre. Et je pense qu'il faut aussi faire en sorte que l'objectif et les résultats de ce projet commun puissent bénéficier à chacun, à chacune des sociétés et s'inscrivent dans chacune des stratégies de ces sociétés.
Quels sont les grands axes que vous souhaitez développer avec Lucid Realities et Unframe Collection pour les années à venir ?
Nous, on a un axe dans les territoires éloignés. J'ai envie de dire territoire éloigné, j'aime pas trop ce terme, mais ce qu'on veut, c'est ne pas se contenter de travailler aujourd'hui qu'avec de grandes institutions, mais aller dans les petits musées, les musées de moyenne taille en région. D'utiliser le fait que ces technologies-là nous permettent de les dupliquer, nous permettent de les faire voyager de manière beaucoup plus simple que des œuvres physiques. Donc vraiment aller chercher des utilisateurs, des visiteurs dans les régions. Il y a un gros volet sur l'éducatif que moi je porte aussi beaucoup sur comment ces médiums-là peuvent être utilisés dans les écoles, dans les universités, dans les bibliothèques, les médiathèques. Donc on a un gros volet là-dessus. Et puis voilà, un volet international. Au sein de l'équipe d'Unframe Collection, on a quand même une équipe très internationale. Bah, là aussi, ça va être de tisser un réseau international très important avec à la fois des lieux de diffusion, mais aussi des producteurs, parce que sans les œuvres, en fait, on n'a rien. C'est reste le cœur de notre offre, ce sont les œuvres. Continuer à alimenter, à construire ce marché-là, à diguer, comme on dit souvent ça, là, on digue, on creuse, on construit l'offre aussi. Ça, c'est hyper important de se dire, des fois, il ne faut pas aller chercher une demande d'un client, il faut lui dire, tiens, regarde, là, il existe ça, c'est formidable, voilà comment tu peux le montrer. Et ça, c'est aussi ce qu'on veut faire aussi, c'est vraiment développer notre offre, montrer comment on peut programmer, comment on peut diffuser ses œuvres.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Pour découvrir les œuvres produites par les équipes de Lucid Realities, rendez-vous sur leur site ou sur la plateforme Unframed Collection. Je vous invite aussi à jeter un œil à l'appel à projet Innovation Lab du programme Europe Créative. Pour résumer, il soutient la co-conception et l'expérimentation de solutions commerciales innovantes entre le secteur de l'audiovisuel et les secteurs de la musique, de l'édition ou des musées. Vous trouverez une fiche détaillée qui explique les critères et les infos nécessaires à la préparation de votre dossier sur le site du Relais Culture Europe, volet transsectoriel. Et moi, je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode du podcast De l'idée au projet. De l'idée au projet est un podcast du Relais Culture Europe, bureau français du programme Europe Créative. Journalisme et réalisation, Mathilde Mélan.